10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
Eh bien justement, ce matin, on va en prendre de l'air. On va surtout prendre un bon bol d'air frais puisque Claire a posé son linge de bain à la piscine d'Angolon et elle est toute seule dans cette piscine d'Angolon. Pas un chat ce matin. Bonjour Claire.
Mais bonjour Florian, bonjour à vous tous et à vous toutes. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'air de jeu. Et oui, on a pris nos quartiers ici à la piscine d'Angolon. Et puis Florian, ben non, je vais vous détromper parce qu'il y a quand même des gens, il y a des gens qui viennent se baigner. Et on a croisé quelques personnes. L'air est à 23 degrés, la température de l'eau est à 21. Mais nous, on est là pour parler de sport, bien évidemment, puisqu'on a le plaisir de recevoir Philippe Silacci, qui a écrit de nombreux livres et qui va nous présenter, puisqu'il est le président de l'association neuchâteloise de la presse sportive. Et puis vous, chers auditeurs, vous pourrez bien évidemment venir nous retrouver ici. On espère que vous viendrez nous faire un petit coucou et jouer à nos jeux. On a plein de jolis cadeaux à vous offrir. Mais tout de suite, Philippe, bonjour.
Bonjour, Claire.
Alors, on a choisi la piscine d'Angolon, hein, puisque le sport, c'est le thème dont on va parler ce matin. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours qui est vraiment bien jalonné dans tout plein de domaines?
Mais bien volontiers, jalonné de sport, c'est une évidence à la mesure où je n'ai pas quitté ce milieu depuis mes premiers pas dans la vie professionnelle. C'était en 1970. Lorsque j'ai intégré le service de presse de Longines à Saint-Imier, dans lequel j'ai travaillé pendant 22 ans, successivement pour la manufacture, puis à la création auprès de la société Swiss Timing à Saint-Imier également, bien évidemment. Après avoir quitté l'horlogerie, j'ai muté pour la Fédération internationale de gymnastique, qui en 1992 avait d'abord son siège à Moutier, qui a ensuite tutoyé Neuchâtel avant d'établir son nouveau siège à Lausanne, où j'ai terminé ma carrière en 2014, après avoir également passé 22 ans au service de presse.
Et donc, les Jeux Olympiques vous tiennent à cœur, puisque vous avez même écrit un livre qui s'intitule 1972-2012, Mes Jeux sont faits, on va bien sûr en parler. Vous êtes, comme je l'ai dit, depuis 2017, le président de l'association neuchâteloise de la presse sportive. Quel est le but de cette association et à quoi elle est consacrée?
Alors, cette association, rappelons-le, est née en 1965. Elle a été créée par une poignée de journalistes de l'époque et a eu pour premier président Eric Walter, que les aînés connaissent bien, et qui compte à ce jour une trentaine de membres, composés d'actifs, de journalistes et d'anciens qui sont aujourd'hui retraités ou pigistes, et qui régulièrement travaillent dans les rédactions du canton ou ailleurs, aussi bien dans la presse écrite, la presse radiophonique, la télévision, et beaucoup également sont photographes de sport. C'est une association qui a pour but essentiel, bien évidemment, de défendre les métiers du journalisme, de promouvoir les différentes spécialités de ce métier, qui, comme vous l'ignorez pas, traverse aujourd'hui des crises importantes, des mutations importantes, dans la mesure où le métier change, de nouveaux médias apparaissent, et qu'il s'agit de s'adapter à ces nouvelles manières de témoigner de ce qui se passe dans le milieu sportif. Cette association, il est intéressant de le rappeler, fut celle qui a créé le premier mérite sportif neuchâtelois, en 1963 déjà, puisque l'idée a germé dans la tête des fondateurs d'accorder chaque année une coupe, un trophée, et du moins une attention particulière à un sportif, une sportive de ce canton. Et le premier récipiendaire de ce mérite sportif neuchâtelois fut, pour les aînés, ils s'en souviendront, Pompon Muller. Le célèbre marcheur, coureur, qui avait une caractéristique particulière, c'est de chaque fois exercer son art pieds nus.
Ah oui, alors c'est une jolie anecdote. Nous allons passer tout de suite à notre premier jeu.
L'air de jeu, Le défi.
Et c'est un objet qu'il faudra nous apporter ici à la piscine d'Angolon. On est bien installé sur la terrasse de la buvette. On a une vue magnifique sur les deux côtés du Val de Rue. Facile pour nous trouver, nous amener cet objet. Et l'objet en question, eh bien, c'est Philippe qui va vous le dévoiler. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous apporte, Philippe? Et c'est jusqu'à midi que les auditeurs peuvent réaliser le défi.
Alors, on va rester dans le milieu sportif. Alors, je demanderai à celles et ceux qui nous écoutent d'être le premier ou la première à nous apporter un sifflet d'arbitre que vous connaissez, quelle que soit votre spécialité, le football, le volley, le hockey ou le basketball. Nous, c'est un sifflet d'arbitre qui nous intéresse.
Oui, ou un simple sifflet, un jouet d'enfant aussi.
Ça irait très bien.
Voilà, c'est pour symboliser justement le sifflet d'un arbitre, comme vous l'avez dit, qui est présent dans de nombreux sports. Et vu que le thème de cette émission aujourd'hui est consacré au journalisme et au sport, eh bien, c'était vraiment de bon augure que de vous demander cet objet. Voilà, Florian, tout est parti ici à la piscine d'Angolon pour passer une belle matinée avec vous, chers auditeurs. J'espère que vous viendrez nous faire un petit coucou.
Ben oui, et puis le sifflet peut aussi servir au garde-bain, au bord de la piscine, pour surveiller un petit peu. C'est juste, hein?
Ah oui, j'imagine que le garde-bain utilise aussi un sifflet, non, Philippe?
Ah ben c'est clair, essentiellement pour rappeler les personnes à l'ordre lorsqu'ils franchissent une ligne rouge. Et c'est surtout une mesure de prévention pour éviter tout accident.
Voilà, donc le défi est lancé, on vous attend ici à la piscine d'Angolon.
Et puis moi j'ai déjà un défi tout simple à vous faire faire ce matin aussi, Claire. Avec Philippe, vous allez vous faire prendre en photo avec les transats au bord de l'eau. Ça nous rappellera les vieux souvenirs de la semaine passée où il a fait passer 30 degrés. Est-ce que ce défi, petit défi bien sympa, vous allez doute arriver à le... Mais alors une belle photo, il faut que ça soit pris par quelqu'un. Et puis une ou deux selfies qu'on puisse aussi les diffuser pour vous voir à la piscine.
Oui, alors Philippe, j'imagine qu'on peut réaliser le défi.
Pas de problème. Pour les transats, ça joue, mais pour le maillot de bain, il faudra repasser. Alors.
Non, on va pas mettre de maillot de bain parce qu'il fait pas assez chaud.
Non, par contre, si Philippe il veut se mettre à torse-poil, c'est pas interdit. À tout de suite.
Voilà, Joker.
10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
Nous sommes toujours avec Philippe Silacci, ici en direct de la piscine d'Angolon. Et on parle bien évidemment de sport, de ce métier de journalisme. On pense bien évidemment à nos collègues journalistes à RTN qui nous font passer vraiment de bons moments lors de matchs et d'épreuves sportives. Philippe, c'est quoi vous votre sport de prédilection que vous avez peut-être pratiqué longtemps et un sport que vous continuez de regarder attentivement?
Alors, s'agissant du sport que j'ai pratiqué tout jeune, ce fut d'abord le football dans un club titré champion suisse. Mais rassurez-vous, c'était en 1912. C'est l'Étoile Sporting de la Chaux-de-Fonds. Mais le sport que j'ai pratiqué le plus longtemps, c'est le karaté. Dans deux dojos, à la Chaux-de-Fonds toujours. Le premier, celui du Self-Défense et Santé, le SDS. Puis le Shugyo Dojo, qui est toujours dirigé par Yvan Keller, dans lequel j'ai pratiqué pendant, mon Dieu, une trentaine d'années. Mais si vous me demandez aujourd'hui quel est mon sport de prédilection, du moins celui que je regarde avec beaucoup de passion, c'est bien le hockey sur glace, et en particulier les évolutions des abeilles chaux-de-fonnières, à qui je souhaite bon vol pour la nouvelle saison, et qui sait, une promotion l'année prochaine auprès de l'élite.
On croise les doigts pour le HCC. Qu'est-ce que vous a apporté personnellement le karaté?
Alors c'est d'abord un excellent exercice physique, ça il ne faut pas le dénigrer, qui est très utile encore plus aujourd'hui, mais c'était surtout une façon d'appréhender un certain contrôle de soi-même, puisque dans l'essence même du karaté, que je n'ai jamais pratiqué en compétition, faut-il le préciser, le karaté n'étant à mes yeux pas fait pour combattre, mais bien pour se défendre. Donc il s'agit bien d'appréhender des situations difficiles et de garder un contrôle permanent de ses actes, de ses gestes. Avec cette activité-là, on apprend la retenue, on apprend surtout le respect de l'autre, de soi-même, puisque la règle d'or du karaté, il faut se rappeler qu'il commence et se termine toujours dans la courtoisie.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
On se rend du côté de la piscine d'Angolon. Avec vous Claire, pour parler justement de journalisme sportif ce matin, aussi un petit peu de cette piscine, j'imagine que vous avez du monde qui commence d'arriver gentiment.
Oui, et puis on fera connaissance dans quelques minutes de la mascotte. Il paraît que Josiane, c'est la mascotte de la piscine d'Angolon. Mais nous sommes toujours avec Philippe Silacci. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé dans ce métier de journalisme? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous a plu également?
Alors, ce qui m'a poussé dans le journalisme sportif, c'est le hasard d'un emploi trouvé après l'école de commerce. Mais rien ne m'indiquait que je choisirais cette voie-là. C'est le fait des circonstances qui ont décidé au mois d'octobre 1970 que j'allais intégrer un service de presse d'une entreprise que je n'ai pas quitté pendant 22 ans pour ensuite faire le même métier ou presque auprès d'une fédération internationale. Donc c'est le fruit d'un pur hasard et je n'ai pas eu de maître qui m'a guidé dans mon choix professionnel. C'est ce hasard-là qui également a conduit mes deux fils à exercer la même profession. Ils sont tous les deux journalistes. L'aîné auprès de la presse écrite, auprès de l'agence Keystone ATS. Et le cadet, Antoine, travaille auprès de la RTS à Genève.
Et vous avez, j'imagine, beaucoup voyagé et vous avez plein de souvenirs. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir en tête lorsque vous vous repensez à cette époque?
Alors, c'est évident que le sport appelle les voyages au gré des calendriers de l'actualité sportive. Ce qui reste, bien évidemment, c'est pas simplement de déplacements, de valises, d'avions et d'hôtels. Chaque voyage, quel qu'il soit, pour le sport ou un autre motif, est source d'anecdotes, d'aventures, pour la plupart du temps anecdotiques, agréables, mais jamais de mésaventures ou d'accidents dans ce cas de parcours. Mais c'est clair que les souvenirs sont nombreux. Dès le moment où vous prenez un train, vous prenez un avion, vous prenez une voiture, il y a toujours une petite aventure, anecdote au bout de la route.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu.
À la piscine d'Angolon, où elle va faire plouf, peut-être tout à l'heure, on ne sait pas, hein, allez savoir. Claire, avec cette fois-ci des jeux et du monde qui est arrivé, et puis cette fameuse mascotte.
Oui, oui. Alors, je vais déjà demander à Philippe Silacci. Alors, Philippe, la natation, est-ce que c'est un sport que vous aimez et que vous avez pu suivre?
Je ne suis pas ce qu'on appellerait un fan de natation. C'est pas le mot. Oui, je vais à la piscine assez régulièrement, mais j'ai d'autres affinités pour d'autres sports, je ne peux rien vous cacher.
Et il y a aussi à côté de nous Christophe. Alors Christophe, vous êtes le responsable de la piscine d'Angolon, approchez-vous. Et voilà, il y a une mascotte, c'est Josiane. Hein.
Oui, tout à fait.
Et pourquoi c'est une mascotte ici?
Par son caractère, sa jovialité et à son âge, qu'on ne dira pas à l'antenne, elle nage quasiment presque tous les jours 1 km et une petite descente en toboggan.
Et c'est ça peut-être le secret pour être en pleine forme?
Ah, c'est possible, en tout cas faut y demander à elle comment elle fait.
En tout cas, merci de nous accueillir ici sur le site de cette piscine. On passe un bon moment. Alors, je vais m'asseoir à côté de vous, Josiane. Bonjour la mascotte.
Mais bonjour. La mascotte, c'est beaucoup dire, quoi.
Comment ça va?
Mais ça va très bien.
Alors, vous êtes venue ce matin, vous avez déjà fait votre kilomètre?
Ben non, malheureusement, j'ai le bras dans le...
Ah mince.
Mais...
Oh, qu'est-ce que vous avez fait?
Ben, je suis tombée en voulant... faire une marche avec surtout un petit mur pour pas prendre des escaliers, puis c'était trop haut, puis je suis retombée en arrière sur le derrière, quoi.
Ah mince alors!
Avec la main, puis je me suis cassé le poignet.
Ah, ma pauvre Josiane!
Mais enfin, je vais marcher dans le bassin des enfants.
Ça fait longtemps que vous venez à la piscine?
Oh là là, des années, des années, des années, je venais avec mes petits-enfants. J'ai déjà le toboggan avec eux. Maintenant, je continue toute seule.
Et vous venez par n'importe quel temps?
Pratiquement. Bon, quand il y a de l'orage, ils ne veulent pas qu'on se trompe.
Ben, je les comprends, hein.
Ah oui, c'est normal. Non, non, mais non, je viens tous les jours, oui.
Bon, alors si une fois j'ai envie de venir faire quelques bassins et faire une petite descente en toboggan, ben, ce sera pour l'année prochaine, hein, parce que
c'est un peu tard, oui.
Voilà, c'est un petit peu tard, la saison est finie. Allez, on va jouer avec vous et voici votre jeu, ma chère Josiane.
L'air de jeu, le Kézako.
Alors, j'ai trois questions. Vous avez 30 secondes. le chrono va partir quand je vous poserai la première question, hein, à l'énoncé de la première question. Il y a donc, comme je l'ai dit, une question, il y a trois réponses possibles. À vous de me donner la bonne réponse. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'une esperluette? Est-ce que c'est une plante aromatique, un signe topographique ou une sorte de chaussure?
Vite, vite, vite. Une chaussure.
Qu'est-ce qu'un pétongle? Un mollusque, un oiseau ou un coupongle?
Un pétongle? Non, c'est pas un pétongle. J'en sais rien.
Que sont les vibrisses? Est-ce que ce sont les poils du nez, des vibrations ou les moustaches du chat?
Des moustaches du chat.
Qu'est-ce qu'une esperluette? Une plante. Ah, on arrive au bout. Ah, dada.
C'est quoi l'esperluette alors?
L'esperluette, et c'est un signe pour écrire deux. Ensuite, le pétoncle. Vous savez ce que c'est que le pétoncle?
Non.
Vous n'en avez jamais mangé.
Ah, c'est un champignon.
C'est un mollusque. Voilà. Et puis, ben, il y a les vibrisses du chat qui vous sauvent l'honneur. En tout cas, on a eu le plaisir de vous avoir avec nous, ma chère Josiane. Et on vous souhaite un bon dimanche, une bonne suite et à très vite.
À très vite aussi. On va passer un bon hiver, je pense.
10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
Ou on peut le dire, on prend un grand bol d'air frais ce matin, Claire.
Oui, effectivement. Et vous n'allez pas être déçu, Florian, parce que le défi qu'on va réaliser à Mamma Mia, il va être d'enfer. Il y a Valentin donc qui est le caissier qui nous a dit « Ah, mais moi, je vais venir vous aider à réaliser le défi ». Alors, Philippe Silacci, vous avez donc écrit hein, ce livre 1972-2012, « Mes jeux sont faits ». C'est un livre qui est truffé hein, d'anecdotes aussi sur cette période des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'écrire? Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez nous raconter d'amusant sur cet ouvrage?
Alors, ce qui a motivé, c'est à un moment donné, il est arrivé qu'on me demande souvent, mais raconte-nous quelques anecdotes de ce parcours. Alors, j'ai pris la décision une fois de les réunir sur le papier. Et au gré des histoires, de les réunir sous la forme d'un livre. Et c'est avec la complicité de deux amis de César, Marlise Schmid et Bernard Müller, qui sont les éditeurs de ce bouquin aux éditions de la Châtière à César, qui m'ont aidé à confectionner ce livre, qui est paru l'an passé maintenant. Et dans lequel, effectivement, il y a quelques anecdotes. Mais ce n'est pas un recueil d'anecdotes, c'est surtout des pages qui relatent des moments, des instants qui ont peut-être influé sur le cours d'une histoire, le cours des Jeux. J'explique aussi, vu de l'intérieur de fédération, comment fonctionne une fédération dans différents registres, et en particulier celui des médias. Étant donné que les spectacles auxquels il m'a été donné d'assister n'est pas forcément le même qu'on voit en télévision ou qu'on écoute en radio, dans la mesure où vous êtes vraiment le témoin privilégié de ces différents événements. Quelques anecdotes pour en citer une à titre d'exemple. On s'interroge souvent sur la manière dont se décident des compétitions internationales. Je pense aux Jeux Olympiques. On croit très souvent que c'est un règlement de fédération qui décide du comment, de la manière dont va se dérouler un événement, une finale de gymnastique pour ne pas la citer, alors que la réalité est tout à fait différente. C'est la télévision qui décide, la télévision est souveraine, a les pleins pouvoirs dans la plupart des cas, et c'est elle qui décide au dernier moment du format d'une compétition, malgré tous les textes écrits, les règlements. Donc une vision un peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir et d'entendre dans les médias.
10h, midi, envie de prendre l'air, l'air de jeu.
Et notre mascotte Claire, elle est partie, elle a fait son kilomètre puis elle est partie.
Coucou, me revoici, me revoilà Florian. Alors c'est vrai que le défi qu'on a réalisé aujourd'hui, il était vraiment incroyable. J'imagine, mon cher Philippe Silacci, vous êtes donc l'invité de l'air de jeu ce matin. On parle de sport avec vous. Vous n'auriez jamais pensé que vous alliez vous retrouver dans cette situation en vous levant ce matin. Hein?
Absolument, totale surprise et un défi, je dirais, dignement relevé.
Et à la hauteur.
Absolument, on est à 5 mètres de la surface de l'eau.
Avec nos transats, hein, alors merci à Valentin qui a fait les photos, qui a transporté les transats jusqu'en haut du plongeoir des 5 mètres pour réaliser donc ce défi. Ah, c'était sport, hein. Philippe, on parcourt votre livre hein, que vous avez écrit, qui est sorti l'année passée, 1972-2012, « Mes jeux sont faits ». Est-ce qu'il y a des jeux auxquels vous avez pris part durant ces années-là qui vous ont plus marqué que d'autres?
C'est clair, chaque événement a son histoire. Mais s'il fallait en citer quelques-uns, je dirais d'abord les premiers, qui ont été ceux de Munich en 1972. Et chacun se souvient, pour les avoir vécus, regardés, ou après avoir lu les livres d'histoire, chacun se rappellera que c'est à l'occasion de ces Jeux-là qu'a eu lieu un terrible attentat qui a coûté la vie à 11 personnes. Et c'est clair que de cette minute-là, la physionomie des Jeux a changé. L'élément sécuritaire qui était certes présent, mais pas de manière ostentatoire, mais tout du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, la sécurité est devenue un des dossiers les plus importants des Jeux. Et je dirais à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure des Jeux de Paris l'année prochaine, cette sécurité-là coûte extrêmement cher pour les organisateurs, car bien entendu, les Jeux sont une cible et une plateforme, une scène extraordinaire, entre guillemets, pour celles et ceux qui pourraient commettre un attentat ou quelconque acte de terrorisme.
Est-ce que votre ouvrage est consacré qu'aux Jeux d'été ou vous évoquez également les Jeux d'hiver?
Il y a deux Jeux d'hiver auxquels j'ai participé lorsqu'il était question du chronométrage sportif, de Swiss Timing. Il s'agit ceux de Lake Placid et ceux d'Albertville. Il fait trois Jeux, il y a Innsbruck en 1976.
Est-ce que c'est ces fameux Jeux où Franz Klammer était juste devant Bernard Russie?
Oui, effectivement, dans la descente du Patscherkofel, Russie était d'abord détenteur du titre olympique après Sapporo. Il était attendu au contour par Franz Klammer, Klammer Express, comme l'appelaient les Autrichiens. Et au final, c'est pour je ne sais plus combien de centièmes de seconde, Klammer l'a emporté. Et ce fut bien sûr, imaginez la fête populaire et à Innsbruck et dans toute l'Autriche. L'idole de toute l'Autriche, c'est Roger Federer pour nous, qui gagne la descente olympique chez lui à Innsbruck. Un événement qui a été salué par toute la presse et le public et qui a donné lieu à une anecdote assez étonnante. Après avoir gagné le titre, après avoir franchi la ligne d'arrivée, Klammer, bien sûr, s'est prêté au jeu des interviews, de la radio, de la télévision, s'est prêté aux caméras des photographes. Puis tout à coup, a disparu dans les airs, happé par un hélicoptère de la télévision, et a disparu. Il s'est passé quelques minutes pendant lesquelles personne en Autriche savait ce qu'était devenu Franz Klammer. C'est l'événement que je rapporte me concerne en premier chef, dans la mesure où, à ce moment-là, je regardais moi la descente à la télévision dans la lounge, le bar de Swiss Timing, qui était réservé aux journalistes, à la presse. C'est depuis cet endroit-là que je regardais la séance, quand tout à coup, je vois un hélicoptère se poser sur le parking devant ce restaurant, cette lounge, et qui en descend, ben c'est Franz Klammer, avec son coach, son skiman, et qui est venu dans la Swiss Timing Lounge se restaurer, manger une assiette valaisanne, et je lui ai servi le premier canon de blanc qu'il a bu, le premier verre de fondant qu'il a certainement bu de sa vie.
Ah, jolie anecdote. Mais justement, quand on évoque ces deux skieurs formidables, on pense, en tout cas nous, on pense à Ayrton, bien évidemment, à Raphaël Tchoudi, qui a incarné Bernard Russie dans un film. Il a eu l'occasion de nous en parler dans l'ère de jeu il y a quelques mois.
Jusqu'à midi, l'ère de jeu.
Ben voilà, ça y est, on vous a amené votre petit jouet, Claire, le sifflet. Ah, les oreilles, oh, c'est dimanche matin.
Ah, j'adore. Ah, mais ça me fait plaisir de pouvoir siffler une fois comme ça. Alors, Florian, ah, mais il siffle pas mal aussi. Bonjour, Caril.
Bonjour.
Comment tu vas?
Bien.
Mais t'es en maillot de bain?
Oui.
T'es allée te baigner?
Oui.
Pas trop froid?
Non.
Qu'est-ce qui te plaît ici, à la piscine d'Angoulême?
Je sais pas, d'habitude, je vais à Chaux-de-Fonds.
Tu habites à la Chaux-de-Fonds?
Oui.
Ah, évidemment, avec tout ce qui s'est passé, voilà, vous ne pouvez pas aller à la piscine de la Chaux-de-Fonds. Mais heureusement que dans le canton de Neuchâtel, il y a eu cette solidarité hein, pour que les personnes qui avaient l'abonnement à la Chaux-de-Fonds puissent aller dans d'autres piscines. Est-ce que ça s'est bien passé là, à la reprise scolaire?
Ouais.
Oh, t'étais pas très convaincant là. T'es en quelle année?
9e.
Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? T'as déjà une idée?
Agriculteur comme mon père.
Ah ben c'est un très beau métier et c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais heureusement que les agriculteurs sont là, hein, parce que sinon sans vous, ben, on n'aurait pas grand-chose dans l'assiette. C'est ta petite sœur?
Oui.
Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Sarah.
Et toi, comment ça s'est passé la reprise scolaire?
Alors super bien, j'ai de super bons profs.
Tu es dans quel collège?
Les Forges.
Ah oui, j'ai fait une année aux Forges. Ça a bien changé hein, après la tempête.
Ouais.
T'as pas été trop choquée?
Un petit peu, beaucoup.
Ouais, beaucoup hein, quand même. Eh ben, en tout cas, bravo mon cher Caril, parce que tu as remporté le défi. Alors, bonne suite de dimanche.
Merci beaucoup.
10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
Et on retourne à la piscine d'Angolan, où le défi a donc été relevé. Tous les défis ont été relevés ce matin, Claire. C'est incroyable quand même.
Ah mais c'est incredible. Non mais c'est génial. On passe vraiment une chouette matinée ici. On a rencontré plein de gens super sympathiques. Et puis notre invité également hein, qui nous raconte un petit peu son vécu au travers de son métier. On rappelle que Philippe Silacci est donc le président de l'association neuchâteloise de la presse sportive. Hein, on pense bien évidemment à tous ces sportifs qui nous font vibrer et qui commentent ou qui nous décrivent les différentes manifestations sportives. Philippe a écrit également de nombreux livres. Celui dont on parle ce matin, c'est bien sûr celui que vous a consacré aux Jeux Olympiques 1972-2012, Mes Jeux sont faits. Lorsque l'on parle de Jeux Olympiques ou de grands événements sportifs, Philippe, on pense toujours au chronométrage qui est, mon Dieu, très important. Est-ce que là aussi, vous auriez une anecdote à nous raconter?
Alors, évidemment, des anecdotes, il y en a plein, plein ma musette, je dirais, aussi plein le livre. Mais puisqu'on est à la piscine, alors on va raconter une anecdote qui a la natation pour théâtre. Il faut reculer à Munich en 1972 à l'occasion d'une finale de natation où le vainqueur, l'Américain McKee, l'a emporté pour 3 millièmes de seconde. C'était la première fois qu'un écart aussi faible avait été mesuré dans des épreuves olympiques. Mais l'anecdote n'est pas tellement la différence en millièmes de seconde, ce qui correspond à 2,3 millimètres. Entre le premier et le deuxième sur une distance de 400 mètres, mais c'est plutôt cette notion de distance qui a été mise en cause à cette époque-là, dans la mesure où les lignes d'eau, sauf erreur 4 et 6, étaient-elles de la même longueur? S'agissant d'une différence pour une médaille d'or de 2,3 mm, on pouvait se demander à l'époque si vraiment les architectes de l'époque avaient bien mesuré les mêmes longueurs de 50 mètres pour les deux lignes d'eau. À noter que depuis ce jour-là, eh bien, les mêmes architectes maintenant se servent de théodolite pour mesurer qu'effectivement chaque ligne d'eau est bien 50 mètres et pas un millimètre de plus ou de moins.
Et comme quoi, hein, c'est vraiment, ça se joue des fois à quelques centièmes et Dieu sait si ça doit être rageant. Est-ce que vous avez eu l'occasion de côtoyer, je ne sais pas moi, un sportif? Vous avez évoqué tout à l'heure Franz Klammer. Est-ce qu'il y a d'autres sportifs que vous avez eu l'occasion de rencontrer et sur lesquels vous avez une petite anecdote ou qui vous a laissé un bon souvenir?
Les sportifs, au moment des fêtes, au moment où se passe l'événement, sont peu disponibles et c'est extrêmement rare de passer quelques instants avec eux, dans la mesure où ils sont pris par la concentration avant l'événement, pris par les journalistes, la presse après l'événement, qu'il est extrêmement difficile de les approcher. On a bien entendu quelques minutes, quelques instants à passer avec eux, dans un moment dans les conférences de presse notamment, et c'est toujours des moments extrêmement, extrêmement rares et précieux, et parfois historiques, de pouvoir converser, dialoguer avec celles et ceux qui ont fait l'actualité sportive. Alors des noms, bien entendu, j'en ai quelques-uns, parmi les gymnastes surtout, puisqu'il s'agissait surtout de Fédération internationale de gymnastique, des champions olympiques, des champions du monde qui se sont toujours prêtés de façon admirable au jeu des questions des journalistes. Et en ma qualité de chef de presse de l'EPAC, ils m'ont rendu la tâche extrêmement facile, avec toujours le sourire et la bonne humeur.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
Et on passe le temps aujourd'hui à la piscine d'Angoulême avec Claire et puis évidemment Philippe. On a quelques, je l'évoquais tout à l'heure, on a quelques vieilles photos qu'on a déjà un petit peu montrées à celles et ceux qui nous suivent en vidéo. Claire, on va peut-être les commenter ces photos.
Mais oui, effectivement. Alors, si on prend cette photo-là, c'est de la course automobile de la F1. Et c'est assez loin dans le temps aussi, hein, Philippe Silacci.
Oui, on est en 1981, c'était à l'occasion d'un Grand Prix de Formule 1 d'Allemagne, sauf erreur sur le circuit Hockenheim. Cette photo est intéressante à deux titres. Le premier, c'est la manière dont les chiffres et les lettres sont inscrits électroniquement sur l'écran. Il faut se rappeler qu'auparavant, il n'y avait pas de temps sur les écrans jusqu'en 1960 à peu près, où les chiffres sont apparus de manière lumineuse. C'était une surimpression de chiffres lumineux sur les écrans. Et puis, au gré de l'évolution de la technologie, ces chiffres lumineux ont disparu au profit de chiffres formés électroniquement par des segments de droite d'abord, puis des points, comme on le voit sur cette photo. Et le deuxième intérêt de cet instantané, c'est la signature du chronométrage de l'époque. Elle est celle des montres Tissot. Et ceci, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, Tissot n'est pas venu dans le sport par la bicyclette, le vélo, mais bien par la Formule 1. C'était à l'époque un choix marketing déjà de pouvoir faire bénéficier d'une marque du même route que le chronomètre traditionnel Longines, de faire bénéficier Tissot. Et c'est la raison pour laquelle on voit cette surimpression de Tissot Timing en 1981 sur les écrans de l'Eurovision. L'insertion télévisée du temps des informations fait partie du standard de toute retransmission télévisée d'aujourd'hui, mais ceci n'était pas le cas jusqu'en 1964, pour être précis. C'est la première fois que le temps a été surimprimé sur les écrans de télévision, et on admet que depuis ce jour-là, le chronométrage était à ciel ouvert, et toute faille, toute panne de chronométreur était alors visible aux yeux de tout le monde, et ce qui donnait une dimension supplémentaire et extraordinaire à ce métier de chronométreur, c'est le risque pris devant des millions, voire milliards de téléspectateurs pour que ce temps soit le bon et ne disparaisse pas des écrans, ne s'arrête pas ou ne part pas au moment d'un événement.
Et puis là, il y a une personne qui est sur cette photo avec une veste rouge que les gens connaissent bien.
Ah oui, c'est même très très bien. C'est un personnage extrêmement important dans le mouvement olympique aujourd'hui, puisqu'il est membre de la direction du CIO, membre de la commission exécutive. Il s'agit de Denis Oswald, que chacun connaît, avocat de Châtellerault, qui a été, c'est le cas, comme le montre le cliché pris à ce moment-là, il est assis aux côtés du président de l'époque de Swiss Timing, Thomas Keller, et Denis Oswald, veste rouge, porte l'uniforme de Swiss Timing en sa qualité de secrétaire général de l'institution qu'il a été pendant plusieurs années. Et il a été, je dirais, un des personnages clés qui a permis à la société qui est aujourd'hui d'accueillir ses lettres de noblesse. Et à ce titre-là, le sport et l'industrie helvétique en général, et son image lui doit beaucoup.
Et puis la dernière photo, vous êtes tout à gauche.
C'est la photo de famille des premiers chronomètres Longines de l'époque, avant même la création de Swiss Timing, la veille du départ pour les Jeux Munich.
10h, midi, envie de prendre l'air, l'air de jeu.
Et on retourne à Angoulême.
Et oui, avec notre invité Philippe Silacci, président de l'association neuchâteloise de la presse sportive, pour évoquer son métier de journalisme, ses souvenirs également. On en a évoqué quelques-uns. Et c'est vrai que votre ouvrage 1972-2012, Mes Jeux sont faits, c'est un ouvrage qui est truffé d'anecdotes.
Oui, bien sûr, il en a chaque rendez-vous olympique a donné l'objet à différentes aventures que j'ai eu le plaisir à remettre en lumière et à imprimer dans ce livre. Pas seulement des anecdotes et des aventures, mais c'est aussi, je dirais, une, une photographie, des jeux à un certain moment, du sport à un certain moment de l'année, de l'année olympique. Les jeux de 1970 ne ressemblent pas du tout à ceux de 2012. Des progrès ont été faits dans tous les domaines, notamment de la technologie, du geste sportif lui-même. Rien de comparable avec ce qui s'est fait en 2012 et rien de comparable avec ce qui se fera l'année prochaine à Paris. Et surtout, depuis la tribune de presse, qui était mon lieu de travail, j'ai pu observer que là aussi, le métier de journaliste a énormément changé. Aujourd'hui, le journaliste se promène à la fois avec un enregistreur portable, un stylo et un appareil photo. Il fait tout en même temps, alors qu'auparavant, chacun avait sa spécialité bien définie. Il y avait le photographe, le journaliste de presse parlée, celui de télévision, le journaliste de presse écrite. Aujourd'hui, avec la venue d'Internet et des médias sociaux, le métier a changé et avec lui, tous les comportements des acteurs du sport, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre de la caméra, on ne se comporte plus de la même manière devant une caméra, devant un microphone, aujourd'hui, comparativement à ce qui se faisait il y a une quarantaine d'années.
Comment vous voyez les Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine ? Est-ce que vous y assisterez ?
Alors, j'y assisterai, mais derrière mon petit écran de télévision. J'espère qu'ils se dérouleront sans accroc. Et c'est mon vœu le plus cher pour toutes celles et ceux qui travaillent maintenant d'arrache-pied pour monter ces Jeux. Pour surtout, je pense surtout aux athlètes qui se préparent dans la plus grande discrétion maintenant et qui souffrent à chaque entraînement pour essayer de faire bonne figure et de d'abord participer aux Jeux, comme le disait son rénovateur Coubertin, et essayer de décrocher une place d'honneur, voire une médaille. Donc c'est le seul et unique vœu que je souhaite pour les organisateurs, que ces Jeux aient lieu dans les meilleures conditions possibles.
Jusqu'à midi, l'heure de jeu.
Pour conclure cette émission ce matin, Claire, en direct d'Angoulême, on a partagé un petit peu la mémoire, notre Wikipédia des médias de sport, Philippe.
Effectivement, hein, on a partagé quelques-uns des souvenirs de notre invité Philippe Silacci, mais on peut dire quand même que la presse sportive se porte bien.
Ça dépend par quel bout de la lorgnette on regarde le métier. Comme je l'ai dit au début de notre interview, le métier traverse une crise existentielle importante. Les médias en général sont soumis à des pressions économiques importantes qui mettent parfois en péril même l'existence de certaines rédactions. Or, il est dangereux que ces rédactions-là disparaissent, étant donné qu'une pluralité de presse est synonyme de bonne santé, de bonne santé de nos différents états d'esprit, de nos différents courants, quels qu'ils soient. La diversité de presse est extrêmement importante dans un pays comme le nôtre, comme dans tous les pays, et je pense en particulier ceux des pays qui n'ont pas cette même liberté de presse qu'on a aujourd'hui, et cela il faudrait s'en rappeler chaque matin quand on se lève. On a la chance d'avoir des médias, RTN est là pour le prouver, qui sont libres de penser, de publier, et c'est extrêmement important aujourd'hui avec l'actualité qu'on peut découvrir chaque matin dans notre quotidien favori.
Et Philippe Silacci, on peut aussi dire que vous avez écrit d'autres ouvrages, hein, à part celui dont on a parlé aujourd'hui, toujours dans le domaine des Jeux Olympiques, du sport en général.
Alors, oui et non. Oui, dans la mesure où le premier des ouvrages auxquels on m'a demandé de ma contribution, c'est l'histoire précisément de la société Swiss Timing, qui a été créée en juillet 72. Et qui vit toujours et bien aujourd'hui et qui sera au rendez-vous de Paris en 2024. Un autre livre qui n'a rien du tout presque à voir avec le sport, c'est l'histoire de deux personnages. Je les ai cités en début d'émission. Il s'agit de Marlies Schmid et Bernard Müller, qui sont ni plus ni moins les créateurs du dessin de la première montre Swatch. Et sont aujourd'hui les éditeurs des trois livres que j'ai commis et qui, dans ce livre de la route de la Swatch, comme il s'appelle, on raconte les différents épisodes et étapes de cette conception de montre. C'est un véritable roman fleuve qu'on vit en le découvrant. Et je ne peux qu'encourager les amateurs d'horlogerie et d'histoire inédite et originale de se procurer ce bouquin dans les meilleures librairies du canton.
Et puis, est-ce que vous allez continuer d'écrire? Est-ce que vous avez des projets?
Alors, continuer d'écrire, oui, certes. Il y a d'abord la fonction présidentielle qui l'amène de la NPS, l'Association de Châtelard, qui me fait écrire pas seulement de commentaires aujourd'hui, et aussi un site internet qui s'appelle modestement Le Petit Reporter, auquel je contribue régulièrement avec des papiers d'humeur, des analyses que je me permets de livrer sur le sport d'aujourd'hui avec les 40 ans de recul qui sont les miens.
Mais en tout cas, ça a été un honneur que de vous recevoir, Philippe Silacci. J'étais très heureuse de relever ce défi avec vous. On était bien hein, sur le plongeoir des 5 mètres.
Ah oui, mais on revêt ça une fois avec le soleil et le caleçon de bain.
Voilà, rendez-vous est pris. Voilà, Florian, on a passé une chouette matinée ici, du côté de la piscine d'Angolon.